Alexandra Ben Saïd, votre invitée ce matin est la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances.
Bonjour Agnès Pannier-Runacher.
Bonjour Alexandra Ben Saïd.
Et merci d'être là, en effet, pour la première réaction du gouvernement à cette incroyable affaire Carlos Ghosn. Vous étiez secrétaire d'État depuis 15 jours et vous étiez au Japon, je crois, quand l'affaire a éclaté. Alors, l'information de la nuit, Carlos Ghosn est au Liban désormais. Il a fui sa résidence surveillée à Tokyo. Son avocat japonais se dit abasourdi. Quelle est la réaction du gouvernement ?
Écoutez, je l'apprends comme vous. Je suis très surprise.
Vous l'avez appris
par la presse.
Par la presse.
Par la presse.
Ce matin, ce soir, hier soir ?
Hier soir. Je suis très surprise. Pas de commentaire particulier parce qu'il faut qu'on comprenne exactement ce qui s'est passé. Nous avons un devoir de soutien consulaire à tous les ressortissants français, ce que nous avons appliqué, hein, parce que j'entendais tout à l'heure la chronique de Dominique Seux. En réalité, on est intervenu de manière très précise,
très
pour faciliter les conditions de détention de Monsieur Ghosn.
Très consulaire, vous. Très consulaire. Vous avez fait ce que vous faites pour tous les citoyens.
Oui, mais parce que Monsieur Ghosn est un citoyen comme les autres, il n'est pas plus au-dessus des lois qu'il ne doit avoir un soutien consulaire comme tous les Français qui font face à la justice d'un autre pays.
Donc quelle va être la position à présent ?
Celle-là.
Celle de soutenir un citoyen français ?
Celle de dire qu'il n'est pas au-dessus des lois. Donc en l'occurrence...
Il a eu tort de fuir la justice japonaise ?
En l'occurrence, là, je pense que si un ressortissant étranger fuyait la justice française, on serait très fâchés. Et de l'autre côté, c'est un ressortissant libanais, brésilien et français, et le soutien consulaire lui est acquis, comme tous les Français.
On entend que pour le gouvernement, c'est quand même une affaire très compliquée.
Non, je crois que ce qui nous intéresse, nous, c'est l'avenir de Renault-Nissan et de cette alliance.
Alors
et pour cela, on a tourné la page. On a tourné la page et aujourd'hui, il y a du bon travail qui est fait au niveau de l'alliance. Il y a du bon travail qui est fait par Jean-Dominique Senard.
Est-ce que ça peut compliquer le futur de cette alliance ?
Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que précisément, on a tourné la page et on a pris les décisions, on a accompagné les nouveaux dirigeants pour prendre les justes décisions et passer à autre chose. Et autre chose, c'est une transformation profonde de cette alliance et de ces différentes sociétés à un moment où la construction automobile est en train d'affronter un certain nombre de défis majeurs, le changement de motorisation, la voiture autonome.
On entend Madame Industrie, là.
Si vous voulez, à un moment, faut pas se tromper de combat. Moi, mon combat, c'est l'industrie. L'industrie française, les grands groupes français,
et leur capacité de
transformation et les salariés qui sont derrière. Mmh. C'est les milliers de salariés qui sont derrière.
Alors Carlos Ghosn, il semble avoir trouvé sa porte de sortie. En France, nous, on cherche encore celle du conflit sur les retraites, transition. On se souvient que le chef de l'État, il avait su trouver avec les gilets jaunes une sortie, un chemin, en lançant le grand débat. Ce soir, beaucoup attendent donc ses vœux. Est-ce qu'on a raison d'attendre une initiative du chef de l'État ?
En tout cas, je crois que tout le monde l'a compris, nous ne cherchons pas le conflit pour le conflit. Ce que nous cherchons à faire, c'est à mener une réforme qui est nécessaire, et ça, grosso modo, tout le monde le dit, pour des raisons...
Vous n'avez pas réussi à... Tout le monde le dit au gouvernement, mais vous n'avez pas réussi à convaincre l'opinion publique. C'est ça qui est en train de se passer à l'heure actuelle.
Alors, je ne partage pas tout à fait ce point de vue, parce que moi, je note que l'opinion publique, elle dit qu'à 80%, elle souhaite la suppression des régimes spéciaux. 80%.
Ça,
80%, c'est quand même pas un petit chiffre, c'est pas 52% versus 48%, c'est pas un pour un.
Mais ça, c'est une des réformes qui est sur la table. Il y a la réforme des régimes spéciaux, il y a la réforme de l'âge,
il y a la réforme à points. Il y a la réforme du régime universel, sur lequel les Français sont également d'accord. Et ensuite, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de brouillage des messages. Je rappelle que entre les faux simulateurs qui donnaient des faux chiffres et qui ont inquiété les Français, c'était un petit peu difficile de lutter. Aujourd'hui, il nous appartient de donner ces éléments-là de façon à rassurer. Je le vois, enfin, ces derniers jours, il y a eu des discussions encore informelles où on voit qu'un certain nombre de corps sociaux avancent et avec des avancées. Et c'est ce chemin-là que nous allons suivre. suivre. Il ne s'agit pas d'opposer les Français aux Français, il s'agit de mettre en place une réforme qui est profondément sociale, je le redis.
Est-ce que
il est inacceptable que 20% des femmes partent à la retraite à 67 ans parce qu'elles n'ont pas tout leur trimestre. Donc cette histoire de 64 ans, ça dépend de quel côté vous le regardez. Aujourd'hui, les salariés du privé parlent à 63 ans et demi. 63 ans et demi, de quoi parle-t-on ?
Agnès Pannier-Runacher, vous parlez de fake news en réalité, hein, par exemple sur
Je crois qu'on agite des peurs pour empêcher une transformation de se faire.
Et est-ce cette que le transformation, premier brouillage, elle est nécessaire. Est-ce que le premier brouillage, ça n'est pas quand même le fait de mettre une mesure d'âge, alors qu'Emmanuel Macron avait dit on ne touchera pas à l'âge de départ, et là on est en train de parler d'un âge d'équilibre qui est un report.
Mais relisez le rapport de Levoix qui a été produit au mois de juin, au début juillet. Tout y est.
18 juillet, oui.
Tout y est.
Mais c'est un changement par rapport aux promesses du candidat. Peut-être que c'est là le premier brouillage. Est-ce qu'il y a eu un loupé ?
Non, je ne crois pas, parce qu'au moment où le rapport sort, tout le monde est d'accord. Ou en tout cas, il y a une forme d'accueil positif de ce rapport de Levoix, et y compris par les syndicats réformistes. Ce sujet de mesure d'âge sort ou devient une ligne rouge au mois de novembre ou de décembre. Donc attention à ne pas se tromper de combat. Je comprends qu'il y a un sujet aussi pour les syndicats par rapport à leur base. Ceci est parfaitement normal. Chacun essaye d'avancer et d'obtenir ses propres accords. Mais en tout état de cause, le gouvernement mène une réforme de justice sociale par rapport à un sujet qui concerne tous les Français.
Vous n'êtes pas en train de jouer le pourrissement.
Est déséquilibré.
C'est ce que dit la CGT. Vous n'êtes pas en train de jouer le pourrissement.
Je me demande qui joue le pourrissement. Nous, on vient aux tables de négociation quand il y a des négociations, par exemple.
Un an après les Gilets jaunes, on arrivait à un tel conflit social. Est-ce que c'est pas qu'il y a eu un loupé, quand même ?
Je crois que c'est surtout qu'on est en train de tenir une promesse de transformation du pays. Et que cette transformation, elle suppose des réformes qui sont difficiles, parce que le premier réflexe face au changement, c'est de résister au changement.
Donc on va continuer le bras de fer ? Il faut rien lâcher ? Parce que là, l'alternative, finalement, c'est reculer ou continuer le bras de fer ?
Non, l'alternative, c'est de trouver justement le chemin que vous indiquez. Ce chemin qui permet de dire, à un moment, on a un équilibre qui est raisonnable, on a permis aux différentes personnes autour de la table de s'exprimer, on a donné des garanties. Moi, je comprends.
On en est là ?
Je comprends les enseignants de l'éducation nationale qui disent, sans l'augmentation de salaire que vous nous promettez, votre système ne tourne pas. Et nous disons, nous nous engageons une augmentation salariale, une revalorisation de votre profession. Nous le faisons
ça,
pas
sait déjà,
pour
et
le plaisir,
ça
nous le faisons
rien.
Parce que nous pensons que cette profession doit profondément être valorisée parce qu'elle est essentielle à la réussite de notre pays. Donc tout ça est très logique. Simplement, il est logique qu'ils attendent d'avoir des actes et des preuves plutôt que simplement un discours.
Alors
donc,
pour l'instant,
nous devons rassurer
rien
sur un certain nombre de sujets et nous devons avancer. Mais
Agnès Pannier-Runacher,
aujourd'hui, la négociation, elle se fait avec différents corps de métier. Ce n'est pas une seule négociation et je n'attends pas de M. Martinez de trouver un accord. Il ne souhaite pas avoir un accord. Il est dans l'immobilisme, il est dans le
conservatisme. On peut faire la réforme, si on ne parle pas de la CGT, on peut faire la réforme sans la CFDT ?
On peut faire la réforme avec ceux des Français qui voudront bien avancer. Et moi, je suis...
Premier syndicat, pour l'instant adverse. On peut faire une réforme sans elle ?
Alors, je redis, la CFDT, elle est d'accord à 90% sur les enjeux de la réforme. 90%. Donc faisons le chemin sur les 10% restants.
Agnès Pannier-Runacher, merci d'avoir été sur France Inter, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie.